Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
6 minutes pour trancher.
8h22, bonjour Cécile Duflot.
Bonjour Yves Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes donc directrice générale d'Oxfam France. Les super riches sont de plus en plus riches et le fossé avec les pauvres se creuse encore et toujours plus. C'est le résumé qu'on peut faire de votre dernier rapport sur les inégalités. 26 milliardaires ont entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit 3,8 milliards de personnes. Ils étaient 43 en 2017.
Et ben voilà, en fait, c'est ce que montre Oxfam qui travaille sur les inégalités de longue date, c'est que ces inégalités s'accroissent. Et elles s'accroissent au profit des ultra-ultra riches. Parce que c'est ça la réalité. C'est qu'en fait, il y a une sorte de concentration de la richesse entre quelques mains, ce qui finalement est absurde et ce qui se fait au détriment des services publics.
C'est inquiétant.
Je pense que c'est inquiétant parce que ça corrode la démocratie, ça corrode la société tout simplement. Ça donne un sentiment légitime d'injustice. Et c'est absurde, c'est surtout absurde parce que quand on est à ces niveaux de richesse, ces milliardaires ont gagné chaque jour 2,2 milliards d'euros en plus. Vous imaginez ce que ça signifie, 2,2 milliards pour tous ces milliardaires chaque jour en plus? Ça sert à rien en fait, c'est des niveaux de richesse qui sont inconséquents et complètement déconnectés de la réalité des besoins.
Alors je disais à l'ouverture de tranche ce matin à 7h et en annonçant votre venue que personnellement moi ça ne me choquait pas que les plus riches gagnent de l'argent, mais qu'en revanche ce qui fait réagir tout de suite, c'est de se dire que les plus pauvres de la planète ont vu leurs revenus baisser notamment de 11% pendant la même période. Est-ce qu'on est obligé de lier les deux?
Mais oui, parce qu'en fait, oui, bien sûr, parce qu'en fait, la question, c'est celle de la redistribution. Donc, vous avez tous entendu, et les gens qui nous écoutent sûrement, un discours sur le ruissellement. C'est-à-dire que quand certains gagnaient énormément d'argent, ça allait découler sur les autres.
C'était un des engagements annoncés, j'allais dire, quasi idéologique et affirmé et revendiqué par le président de la République.
Mais comme vous dites, c'est idéologique, ça ne marche pas. C'est ce que montre le travail d'Oxfam. Nous, on n'a rien contre les riches. Nous, on a un problème avec la pauvreté. On veut lutter pour abolir la pauvreté. Voilà le combat d'Oxfam historique. Et ce que montrent nos travaux, c'est que finalement, l'ultra-richesse, elle produit de l'ultra-ultra-richesse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le phénomène inverse qui est en train de s'opérer. C'est qu'elle se concentre entre les mains de quelques-uns. Et le titre de notre rapport, c'est choisir fortune privée ou service public. Et aujourd'hui, le choix qui est fait, parce que c'est un choix politique, ce sont des politiques fiscales qui aboutissent à cette situation, c'est de privilégier les ultra-riches.
Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il suffit de prendre aux riches pour donner aux pauvres? C'est-à-dire de taxer systématiquement?
La question, c'est pas... Vous entendez dans la formule, prendre aux riches pour donner aux pauvres. Oui. La réalité, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut comme société? Est-ce qu'on veut une société plus juste? Est-ce qu'on veut une société où tout le monde a le droit à la santé? Tout le monde a le droit à l'éducation? Et à ce titre-là, on organise la redistribution. C'est le mode de fonctionnement de la société.
En dépit de toutes les difficultés de notre pays, il y en a, et le mouvement des Gilets jaunes l'a avéré d'une certaine façon, nous sommes un des pays les plus taxés au monde, avec une redistribution en termes sociaux. Alors, si vous le contestez, je vais vous redonner la parole, oui. Bien entendu, mais avec une redistribution, elle aussi, extrêmement importante, qui sans doute ne suffit pas, mais on se dit jusqu'où faut-il aller? Reprendre la parole.
En fait, c'est pas jusqu'où faut-il aller, c'est qu'on fait marche arrière depuis de nombreuses années. C'est là où vous vous trompez, Yves Calvi. C'est que le taux maximum d'imposition a régressé. Aux États-Unis sous Roosevelt, la tranche maximale était de 80%. Mais depuis Reagan, depuis le milieu des années 80, on est sur une tendance qui est à la diminution des taux d'imposition sur les sociétés et aussi sur les revenus. Donc, ce discours un peu répété comme un mantra de taux d'imposition. C'est pas vrai. On a, avec la flat tax en France, avec les choix fiscaux du gouvernement, énormément baissé l'imposition des plus riches. Et si vous me permettez, une petite histoire de riche, d'un des milliardaires danois. Il explique, dans notre rapport, que en rendant visite à une de ses amies, milliardaire, elle, au Brésil, il a dû franchir quatre seuils de sécurité, oui. Et que son appartement, qui est magnifique, avec vitrée du sol au plafond, est entouré de barreaux. Il dit, moi, au Danemark, je paye beaucoup plus d'impôts, mais en face de chez moi, il y a une porte et des fleurs. C'est ça qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ces inégalités sont en train de miner nos démocraties.
Alors, je précise qu'il n'empêche que les statistiques de l'OCDE avèrent du fait que la France est le pays de l'OCDE, je dis bien, le plus taxé. Mais ce que vous nous avez dit est tout à fait vrai quant au niveau de taxation concernant les plus riches. Ce qui est étonnant, c'est qu'en 2018, la France est avec les États-Unis le pays qui a connu la plus forte progression de millionnaires. Comment l'expliquez-vous?
Parce qu'il y a eu des choix fiscaux qui ont abouti à cette situation. Et c'est en fait le travail d'Oxfam.
Ça ne ruisselle jamais. Ça ne ruisselle jamais.
Ah ben la preuve que non. Enfin, notre travail, et maintenant, je crois que ce rapport qui suit un autre rapport, vous avez dit l'évolution, la restriction du nombre de milliardaires, maintenant c'est 26, c'était 43. Donc on voit bien que cette concentration des richesses, elle s'accroît et elle s'aggrave. Ce que nous essayons de dire avec ce rapport, c'est que tout ça n'est pas une fatalité. Ce sont des choix, des décisions politiques. Oui. Et on pourrait se dire, vous l'avez dit, qu'on choisit de favoriser les ultra-riches et que ça va ruisseler. En fait, c'est le contraire qui se passe. Et c'est ça qu'on montre. Donc ça ne fonctionne pas. Ensuite, est-ce qu'on peut décider ? On peut accepter l'idée de cette inégalité, mais on peut aussi constater que ça mine nos sociétés. Vous parlez de la France. C'est vrai qu'en France, il y a un niveau de redistribution et de services publics et de services essentiels qui est bien plus élevé que dans d'autres pays. Il y a des pays du monde où quand vous avez un enfant malade, si vous ne présentez pas le paiement, vous ne rentrez pas à l'hôpital. Et c'est une chance phénoménale. Mais cette chance-là, de pouvoir l'avoir en France, c'est une chance qui devrait exister pour tous. Parce que c'est ce qui stabilise l'ensemble des pays. C'est ce qui fait que la société est finalement plus durable et plus structurellement apaisée.
Je reste un instant dans notre pays. Est-ce que le rétablissement de l'ISF est une priorité selon vous ?
Mais la taxation de la fortune, c'est évidemment un chemin qui est un chemin nécessaire. D'ailleurs, c'est cette taxation, on le voit dans le rapport, qui a le moins augmenté ces dernières années. Dans certains pays, elle a même été abandonnée. Alors que c'est un vrai outil de redistribution, un vrai outil de mobilisation de finances pour les services publics. C'est ça le choix, en fait. Ce choix, il se fait entre le choix de redistribution par l'impôt, donc par la décision politique, ou l'aggravation des inégalités.
Alors, en tout cas, il y a des choses qui sont choquantes, notamment en matière d'évasion fiscale. Il y a une différence entre, je dirais, utiliser habilement, même si ça peut heurter, hein, je le comprends très bien, notre code fiscal, et le fait de, objectivement, mettre en place une capacité à l'évasion fiscale. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre dans un pays comme la France ?
Ah ben bien sûr. La question de l'évasion fiscale, c'est aussi celle du choix politique. Quand la France a décidé d'avoir une liste de paradis fiscaux, qui est quand même une liste de toute petite, quand l'Europe ne prend pas collectivement des mesures pour qu'il y ait des choses qui ressemblent à des paradis fiscaux à partir des montages fiscaux que font les entreprises qu'on connaît bien, notamment via les Pays-Bas ou via le Luxembourg. On sait faire, en fait. Et les États-Unis l'ont fait, d'ailleurs. Les États-Unis l'ont fait il y a quelques années avec leurs résidents, avec maintenant des mesures qui sont des mesures très coercitives à l'égard des résidents fiscaux américains ou des citoyens américains. Et ça fonctionne. Donc, ce que je veux redire aux gens qui nous écoutent, c'est que derrière les inégalités, derrière la lutte contre la pauvreté, il y a des choix démocratiques, des choix politiques.
Vous citez un chiffre absolument ahurissant. L'évasion fiscale évaluée par Oxfam à l'échelle de la planète, je dis bien l'échelle de la planète, serait de 7 600 milliards de dollars.
Oui, et quand on parle d'évasion fiscale, ce que ça veut dire, c'est que ces milliards, pardon, ils existent. On pourrait les utiliser pour autre chose. On pourrait les utiliser pour permettre que toutes les filles aillent à l'école. Par exemple, on sait que l'éducation, c'est la clé, une des clés les plus efficaces de l'égalité femmes.
On ne peut pas ne pas être touché par les chiffres que vous nous citez. Mais est-ce que c'est, pardonnez-moi, mais aussi simple et facile que ça ? C'est je récupère mes 7600 milliards et je les consacre aux filles qui ont effectivement besoin d'aller à l'école.
Mais oui, Yves Calvi, c'est aussi simple que ça. C'est dire qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on produit, qu'est-ce qu'on fait des richesses produites. Est-ce qu'on les redistribue ? Est-ce qu'on les flèche vers des services publics ? Ou est-ce qu'on les laisse grossir la fortune privée de ultra-méga-riches ? Parce que là, on ne parle pas de classe moyenne, de classe moyenne
intermédiaire.
On est dans des proportions qui sont, et c'est ce que montre notre rapport, qui sont complètement folles. C'est-à-dire des gens qui, en plus, et je pense que l'histoire récente de Carlos Ghosn le montre, ça ne les rend pas plus heureux. C'est-à-dire que c'est aussi ça. Il faut voir à quel point ça marche sur la tête. C'est que vous avez des personnes, des familles, des individus qui sont à la tête de fortunes qui ne pourront jamais dépenser. Jeff Bezos envisage d'organiser la colonisation ou des voyages. Enfin, il n'a plus de moyens rationnels de dépenser son propre argent. Donc c'est aussi ça, c'est que tout ça ne repose sur rien. Ça aggrave les inégalités. Ça a conduit à ce que la pauvreté recommence à augmenter et pour aucun effet positif globalement.
La taxe GAFA, les géants du numérique sera, la fameuse taxe GAFA, pardonnez-moi, va donc normalement être applicable dès le 1er janvier 2019. Elle devrait rapporter, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, 500 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle ?
C'est une bonne nouvelle de faire ce premier pas, mais il faut aller plus loin, évidemment. La question de l'optimisation fiscale, vous l'avez dit, il y a l'évasion fiscale, c'est-à-dire les gens qui ne respectent pas les règles, mais l'optimisation fiscale, c'est-à-dire utiliser les failles de la législation, failles voulues ou faille involontaire pour ne pas payer ses impôts sur le territoire, où finalement, ils ont besoin de se développer.
Ce matin, François Langlais nous expliquait, excusez-moi de vous interrompre, que c'était impossible de prendre une décision à l'échelle européenne parce qu'on n'est jamais d'accord.
Oui, mais 27. Alors, il ne faut pas se résoudre à ça.
Et que donc, il y a toujours quelqu'un pour contourner et aller, par exemple, en Irlande.
Il ne faut pas se résoudre à ça. Il ne faut pas non plus se résoudre au fait qu'un certain nombre de dirigeants de l'Europe expliquent que ce n'est pas possible à cause de l'Europe, alors qu'eux-mêmes ne sont pas toujours extrêmement courageux. Il y a des décisions qui peuvent être prises. Et ce qu'il faut comprendre avec les GAFA, ce qu'il faut comprendre avec Amazon, c'est que Amazon, Jeff Bezos est le plus riche. Si il ne peut pas livrer ses colis avec des routes qui sont payées par vos impôts et les miens. Si il n'a pas des Français qui achètent ces objets, il n'existe pas. Cette fortune-là n'existe pas. Donc toute cette infrastructure, toute cette vie sociale, elle, pour qu'Amazon et pour que Jeff Bezos soit aussi riche, elle a besoin que ça existe. Donc il est logique et normal qu'il paye des impôts.
Merci beaucoup Cécile Duflot d'être venue nous voir ce matin sur RTL. Je rappelle Merci. Que vous publiez ces chiffres alors que demain s'ouvre le fameux sommet économique de Davos. Et j'imagine qu'Oxfam a choisi évidemment cette date pour publier
Exactement.
L'ensemble de ces données.
Winnie Bianima, notre directrice internationale, sera là-bas. Elle dit assez justement, il faut aller expliquer à ceux qui sont la cause des problèmes, quels sont ces problèmes et comment les résoudre. Et le rapport est en ligne sur oxfamfrance.org.
Bonne journée à vous. Merci Cécile Duflot.